Bien le bonjour, bienvenue à l'émission Les Voix du Service Magazine, l'édition du vendredi 16 novembre, sous un tapis tout blanc, maintenant dehors, qui nous apporte luminosité. Et attention, parlant de lumière, c'est Hélène Védard, mais roulement de tambour, Francine Forget est de retour avec nous en studio. Bonjour!
Arayou gozaimasu!
Voilà, elle vient du Japon, là je suis faite. Là.
Mais là, je suis peut-être faite moi-même, parce que je suis pas sûre que les Japonais ont reconnu que je vous disais bonjour. Mais en tout cas, l'effort était là. Alors, c'est avec plaisir que je reviens, Hélène. Ça fait bien plaisir de vous retrouver ce matin. Alors, ce matin, je vous parlerai pas du Japon, quoique je vais faire des petits liens, peut-être, avec le Japon, puisque je vais parler d'argent, de cash, de différentes façons de payer aussi. Et évidemment, là-dedans, bien, on va aborder la question des bitcoins, votre sujet préféré. Mais je vais commencer d'abord en vous parlant de la couche d'ozone, une chronique d'Émilie Dubreuil dans le dernier numéro de Voir.
Ah, toujours aussi fascinant. Et surtout les bitcoins, mon cauchemar de compréhension. Merci beaucoup, Francine. Et à la régie, nous avons notre fidèle Maurice Bolduc. Bon matin, Maurice.
Oui, bonjour.
Et de mon côté, après la courte pause, je vais vous entretenir deux sujets, toujours mes sujets chouchous. C'est les soins aux aînés, cultiver sa patience auprès de parents âgés. Et en deuxième partie, je vous le dirai un petit peu plus tard. Je vous reviens dans un moment. Alors, nous revoilà aussi rapidement et je laisse la parole à ma chère collaboratrice Francine.
Merci, Hélène. Alors, sale temps pour sortir, c'est le titre de la rubrique chronique d'Émilie Dubreuil. C'est paru dans Le Voir de novembre 2018, qui est devenu le trou dans la couche d'ozone. Quand tout le monde s'y met à capoter sur le trou dans la couche d'ozone, j'étais encore au primaire, mais comme mes parents étaient abonnés à 4 journaux et que mon frère et moi imitions les adultes, et lisions le matin des papiers gorgés d'encre en déjeunant, je le savais, moi, qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone. Je crois me souvenir qu'en 85 ou 86, j'avais même poussé mon imitation des adultes jusqu'à boire du café en tournant les pages des journaux que nous nous échangions à tour de rôle. Il y avait bien sûr La Presse, Le Journal de Montréal, Le Devoir, mais aussi The Globe and Mail. Ni mon frère ni moi ne maîtrisions assez l'anglais pour lire Le Globe, mais on regardait la page couverture et les cartoons. Vous vous rappelez des cartoons,
Hélène? Hey, Félix le Chandre.
Oui. En fait, c'est pas mal ce qu'on faisait pour tous les journaux qu'il y avait sur la table. On regardait les caricatures, les chercher l'erreur à la fin. L'horoscope aussi. J'ai d'ailleurs gardé cette vilaine habitude de lire mon horoscope tous les matins. Sinon, je me sens un peu toute nue pour le reste de la journée. Il m'est difficile de ne pas connaître mon avenir, un avenir très immédiat, ne serait-ce que 24 heures. C'est comme sortir sans culotte. L'avenir, c'est la clé. Tout cela pour dire que le trou dans la couche d'ozone, on en parlait beaucoup quand j'étais au primaire. Ça faisait la manchette, presque quotidiennement, et j'avais beaucoup impressionné et profondément agacé, sans doute, ma maîtresse d'école, Nicole, dans la classe de 6e année B, en lui posant à brûle-pourpoint une colle du genre « Ça sert à quoi d'apprendre les mathématiques si nous allons de toute façon tous mourir à cause du trou dans la couche d'ozone? » Nicole ne m'aimait déjà pas beaucoup. J'avais pas mal la bougeotte, faut dire. Aujourd'hui, on dirait hyperactif, mais c'était avant le Ritalin. Nicole, c'était une religieuse défroquée. Elle roulait ses R et portait des bas beiges. Parfois, pour calmer les élèves, elle fermait les lumières et demandait à la classe de faire des prières. À ce moment-là, elle me disait « Émilie, tu peux sortir? » Comme je n'étais pas baptisée, elle me faisait sortir dans le corridor. J'étais la seule non-baptisée dans la classe. Et oui, bien sûr qu'il y avait un crucifix dans la classe. Pour ajouter à la stigmatisation, mes parents, tous deux abonnés à 4 journaux, étaient séparés et avaient inventé un système fort suspect, du moins tel que le jugeait ma Nicole, la garde partagée. Un truc totalement marginal en 1985. La couche d'ozone, donc. Ça me pogne souvent. Depuis des années que je me dis, coudonc, pourquoi ne parle-t-on plus jamais du trou dans la couche d'ozone? J'ai fouillé un peu sur le net et il est en train de se refermer, ce fameux trou. Mais bon, faut pas croire tout ce qu'il y a sur Internet, il paraît.
Non.
Après la couche d'ozone, il y a eu les pluies acides. J'ai fait au moins 23 oraux, projets en groupe avec bricolage à l'appui, pour expliquer le phénomène des pluies acides. Bref, depuis que je lis les journaux et que je bois du café, ce qui est arrivé de façon un peu précoce dans mon existence, j'en conviens, la chronique d'une planète qui meurt côtoie mon horoscope chaque matin. Dans mon cours d'anglais en sixième année, l'enseignante, dont je ne me souviens plus du nom, nous avait fait apprendre par cœur Russians, une chanson de Sting. Le texte de cette chanson disait essentiellement que les Russes et les Américains devaient arrêter la course à l'armement nucléaire par amour de leurs enfants. Nucléaire, changement climatique. Parfois, quand je lis les journaux, j'ai comme une impression de déjà-vu et je commence à me poser quelques questions sur le sérieux des horoscopes. Alors, Émilie Dubreuil, avec son humour habituel, ça le temps pour sortir dans Voir de novembre 2018.
C'est beau. Nous revoilà en studio. Et moi, de mon côté, je vais vous parler des soins aux, les soins aux aînés. C'est une rubrique qui s'appelle Travail, santé, vie, que j'affectionne particulièrement. Et ce jour-ci, on va parler des sources de stress et surtout les moyens de les gérer quand on a des soins à donner à nos aînés. S'il vous est difficile de prendre soin d'un parent âgé, ben vous n'êtes pas tout seul. Aujourd'hui, ce chiffre s'élève à 3,6 millions de et nombre de ces personnes dépendent d'un membre de la famille pour satisfaire leurs besoins quotidiens. De plus, comme les avancées de médecine permettent maintenant de survivre à une maladie fatale, parce qu'elle transforme ces maladies en maladies chroniques, le nombre des aînés continuera d'augmenter de façon importante au cours des 30 prochaines années. Quand les soins prodigués à un parent âgé s'ajoutent aux difficultés de poursuivre notre vie active, professionnelle ou à l'éducation de nos enfants, il n'est pas surprenant que plusieurs d'entre nous se trouvent dans l'obligation de réorganiser nos vies, revoir nos priorités et surtout revoir nos ressources financières. Bref, tous les membres de la famille doivent faire preuve d'une grande souplesse, surtout le principal aidant naturel. Quelles sont les difficultés les plus rencontrées? Voyons voir. Chez les aidants naturels, les sources de stress habituelles sont les suivantes. Nécessité d'affronter des crises subites. Soins à prodiguer à un parent qui vit dans une autre collectivité. Difficulté à trouver du temps d'organiser, de prodiguer des soins à ce parent. Difficulté aussi à trouver un équilibre entre l'aide à lui apporter et la nécessité de lui laisser une certaine indépendance. Tiens donc. L'augmentation de nos dépenses. Prise de décision en ce qui concerne les soins aux parents, traitements médicaux, conditions de logement, bon. Et ceci génère aussi une grande possibilité de conflits familiaux. Et il ne faut pas oublier non plus les exigences conflictuelles, travail, famille, parents âgés, les autres obligations qui en découlent. Acceptation du déclin de la santé de notre parent bien-aimé. Puis vouloir surtout aider sans réussir à trouver le temps de tout faire. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour réduire tout ce stress? Quelques techniques, vous prendrez celle qui vous ira. Efforcez-vous d'être bien renseigné sur la maladie dont souffre l'aîné et sur le soutien qui vous est offert. Apprenez ce que d'autres personnes ont fait pour surmonter ce problème. Joignez-vous à un groupe d'entraide. Partagez vos responsabilités avec votre famille, vos amis. Essayez de trouver des organismes communautaires. Pour, par exemple, vous aider pour l'entretien ménager, les repas, le transport, les visites médicales. Allégez le plus possible les pressions financières en vous assurant que votre parent reçoit toutes les prestations d'aide auxquelles il a droit. Renseignez-vous sur les services qui sont offerts et gratuitement, puis il y a ça, il y en a beaucoup. Réduisez l'incertitude à l'égard de l'avenir en faisant des projets long terme. Ça, c'est très sain. Surveillez votre alimentation. N'oubliez pas de faire un peu d'exercice et accordez-vous du temps juste pour vous. Lorsqu'une personne prend soin d'un aîné, ce nouveau rôle peut entraîner de nouvelles responsabilités, des nouvelles tâches et du stress. Utilisez les techniques d'adaptation proposées dans l'article que je viens de vous lire pour avoir l'esprit en paix. Et surtout, n'hésitez surtout pas à demander l'aide à vos amis et à vos familles. C'était donc un court texte sur les soins aux aînés trouvés dans Santé, Travail, Vie, un volet trouvé sur Internet.
La rencontre chez des amis, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie? Me répondit-elle.
Je vends des pommes, des poires et des Scooby-Doo.
De la nuit, puis au jour, on est parti chez moi discuter de l'amour et des fruits. Comme elle se trouvait bien chez moi, aussitôt elle s'installa et le soir en guise de dîner, elle me faisait manger. Devinez quoi? Durer longtemps, car les fruits c'est comme l'amour, faut en user modérément, sinon ça je détruis.
Oh là là.
Quand je lui dis faut se quitter, aussitôt elle s'écria:
mon pauvre ami, des types comme toi on en trouve par milliers, c'est comme les pommes, les poires, elle est scoop.
La leçon que j'en ai tirée est facile à deviner. Célibataire, vaut mieux rester plutôt que de croquer. Vous savez quoi?
Des pommes, des poires et des Scooby-Dooby.
Le grand orchestre du splendide Scooby-Doo, des pommes, des poires.
Merci beaucoup, Maurice. Alors, voilà. Nous revenons à notre charmante collaboratrice qui va nous amener cette fois-ci. Je lui laisse la parole pour vous l'annoncer. À toi, Francine.
C'est le fun de partir, comme on dit, pour revenir et être accueillie comme ça. Édition du 11 novembre 2018 dans la Presse Plus, un dossier sur l'argent, en fait, l'argent comptant et les autres façons de payer. Alors, je commence avec le Bitcoin au troc, donc différentes manières de faire. Il n'y a pas que les cartes de crédit et les chèques qui menacent le bon vieil argent comptant. De nouvelles méthodes de paiement ont été lancées ces dernières décennies. D'autres, plus anciennes, sont revenues au goût du jour avec l'Internet. Karine Benessé nous en parle. Bon, on va parler d'abord du paiement mobile, annoncé par Apple en 2015, offert sur Android 2 ans plus tard. Le paiement mobile permet d'utiliser son téléphone ou sa montre connectée pour payer à la caisse. Est-ce que vous utilisez votre téléphone pour payer?
Jamais.
Jamais, Maurice?
Non, c'est pas encore arrivé, non.
Bon, OK. Alors, c'est bien commode, moi, je trouve. Règle générale, seuls les achats de moins de 100 $ peuvent ainsi être réglés à des caisses utilisant le paiement sans contact. Notons que même si aucune carte de crédit ou de débit n'est sortie pendant l'opération, il faut évidemment avoir un compte de ce type dans une institution bancaire. Les Québécois sont plutôt tièdes à l'égard de cette technologie. Alors, vous faites partie des Québécois qui sont tièdes.
Des tièdes,
oui. À peine de 8 % des détenteurs de téléphones intelligents l'ont utilisé en 2017, selon une enquête de Cefrio. La crypto-monnaie. Alors, on estime qu'il y a environ 1 600 crypto-monnaies en circulation dans le monde. dont la plus connue, le Bitcoin, vaut à elle seule 144 milliards. Mais ces monnaies, dont personne n'a jamais eu la moindre pièce en poche, dont la valeur fluctue, je m'excuse, dans des proportions effarantes, peuvent-elles réellement remplacer l'argent comptant? Déjà, avec le Bitcoin, on peut notamment régler son voyage chez Expedia, se procurer des cartes cadeaux acceptées par 250 grandes marques et acheter dans des milliers de boutiques en ligne sur la plateforme Shopify. Programme de fidélité. Depuis 1958, plus de 1 milliard de dollars en argent Canadian Tire ont été émis. Les 11 millions de participants canadiens au programme Air Miles peuvent dépenser leurs précieux points dans des milliers de sites Internet ou de magasins au pays. On estime la valeur des 1000 aéroplans inutilisés à 2 milliards. Plus de 9 Canadiens sur 10 sont membres d'au moins un programme de récompense, une industrie estimée à 140 millions de dollars par le Conseil canadien du commerce de détail. Et enfin, le troc. Probablement l'activité économique la plus ancienne de l'humanité, le troc semble connaître un regain de popularité grâce à une innovation bien moderne, l'Internet. Selon le plus récent indice Kijiji de l'économie de seconde main, près de 6 % des biens acquis par les Canadiens en 2017 l'ont été dans des échanges. Devenu une des formes les plus accessibles d'économie de partage, le troc est au cœur de dizaines de sites et pages Facebook au Québec. Mentionnons Troc-moi CA, fondé en 2014, qui compte pas moins de 98 000 membres abonnés à sa page Facebook. Chez Troc tes trucs, on invite les citoyens à se départir de leurs objets en échange de jetons virtuels qui leur permettent d'acquérir les biens laissés par d'autres. Alors, on poursuivra ce dossier un peu plus tard au cours de l'émission. Et cet article, je rappelle, était signé par Karim Benassé dans la Presse Plus du 11 novembre.
En attendant la suite des bitcoins, que j'ai toujours de la misère à mettre ça en concret dans ma tête, moi, je vais vous parler d'un dossier que la Gazette des femmes vient de sortir, fort intéressant, et qui dresse le portrait d'une proche aidante. Un portrait qui donne leur juste. C'est un reportage, en fait, c'est un article signé par Raphaël Corbeil. On sait que les soins de santé se sont grandement transformés au cours des dernières décennies pour s'orienter de plus en plus vers le soutien à domicile. Mais cette étude sur l'approche aidance montre que c'est les femmes qui sont encore les plus mobilisées pour prendre soin des autres. Dans les années 90, on assiste à un virage important dans le milieu de la santé qui fait que les soins ont été renvoyés vers le domestique. Quand l'organisation des soins de santé repose sur le maintien à domicile, ben ça retombe dans la cour des familles. Dans ce contexte, comme je le disais plus tôt, ce sont les femmes qui sont en soutien le plus souvent pour leurs proches. On dit d'une personne proche aidante que ce sont des partenaires qui font le libre choix éclairé d'assumer ses tâches. Mais, plus souvent qu'autrement, les femmes se sont senties obligées de le faire et se sentent encore obligées de le faire. C'est la chercheuse Joëlle Stephen Chabot qui parle. Toute personne de l'entourage qui apporte un soutien significatif continue occasionnel à une personne ayant une incapacité, ben, est considérée comme une proche aidante. L'étude montre que les Québécoises sont plus nombreuses à prendre soin d'un parent ou d'un beau-parent, soit environ au-dessus de 400 000 femmes pour 200 000 hommes. On voit du simple au double. Par ailleurs, autant d'hommes que de femmes prennent soin de leur partenaire de vie, nous dit l'étude. La proche aidance se vit différemment selon le sexe. Environ un tiers des femmes sur le marché du travail sont aussi à la fois des proches aidantes. Tandis que le cas d'un homme en emploi, il le fait une fois sur cinq. En plus de travailler, certaines ont également des enfants à la maison. Alors, si on ajoute les tâches pour prendre soin d'un parent, on ajoute évidemment du stress. Cela a des impacts sur la santé physique et émotionnelle de ces femmes, dit la chercheuse. Épuisement, isolement, perte de revenus, la proche aidance peut avoir de nombreuses conséquences néfastes sur la vie des femmes. Elles ont également moins de temps pour les loisirs, et moins le temps de prendre soin d'elles-mêmes, exercice physique, alimentation saine, etc. Elles sont plus nombreuses à déclarer que ces responsabilités sont très stressantes. Si l'État mise de plus en plus sur le soutien à domicile, c'est que celui-ci permet de faire des économies importantes. L'étude réalisée montre que si tous les soins de proche aidance étaient effectués par des employés de l'État, il en coûterait 4 milliards de dollars de plus à l'État québécois. Les proches aidants doivent donc souvent payer avec leur argent personnel du matériel de soutien, prendre de nombreux congés de travail, ce qui empêche évidemment une baisse de revenus. Certaines femmes décident même de partir à la retraite plus tôt. Comment éviter l'épuisement qui sont en lien avec la proche aidance? Comme cette tâche repose essentiellement sur les femmes, il faut qu'il y ait un meilleur partage au sein de nos familles. C'est sans contredit. Ce portrait statistique sera suivi à la fin de 2018 d'un avis exhaustif du Conseil de la question des soins donnés aux aînés, lequel sera transmis au gouvernement du Québec. L'expression « proche aidante » suggère que les soins fournis relèvent davantage d'une pratique innée et simple que d'un travail de soins systématique et complexe. Considérer cette aidante comme naturelle contribue également à maintenir une distance entre le travail valorisé des professionnels et des gens sociaux et le travail moins reconnu des proches aidantes et des proches aidants. C'était donc une étude de Raphaël Corbeil qui est parue dans la Gazette des femmes.
Le téléphone, la porte qui sonne, le stéréo contre la radio, le violoncelle dans la poubelle, rapport d'impôt et mal au dos, tempête de neige, c'est le manège où les charrues brassent dans les rues, que la manique prend la panique. Panne de courant et rage dedans, comment veux-tu que mon refrain chante les parfums des fleurs des îles, il pousse du grésil sur mon jardin. Fleurs de grésil, fleurs du Brésil, RCMP et sauce chili, télécouleurs, télédouleur, Noël disco, pauvre Django, panne de silence et panne d'enfance, piano fermé, corde fanée, fanée les roses et je n'arrose qu'une rosée de mots givrés. Comment veux-tu que mon refrain chante les parfums des fleurs des îles? Il pousse du grésil sur mon jardin. Salut Chaplin, salut Gershwin, salut Miron, salut Frisson, les décibels de ma ruelle ne me jouent plus vos chants perdus, panne de silence et panne d'enfance, piano fermé, corde fanée, fanée les roses et je n'arrose qu'une rosée de mots givrés. Comment veux-tu que mon refrain chante les parfums des fleurs des îles?
il pousse du grésil sur mon jardin.
Fleurs de grésil par Christine Tassin et les imposteurs.
Merci beaucoup, Maurice. Alors, nous poursuivons. Francine Forget reprend le micro.
Alors, je vous parle, je dirais, d'une innovation de circonstance. Stocker le froid pour ce qui est plus longtemps.
Tiens donc.
Hein, c'est une bonne idée, ça.
Dubaï a sûrement pensé.
si on aime la neige. Maxime Bergeron envoyait souvent sur son chemin, en fait, on parle de neige, entre son domicile et l'Université Laval où il étudie, avec son camarade Mathieu Quirois, qui s'est mis à penser à valoriser cette neige. Une réserve de froid, c'est comme une batterie pour le secteur de la réfrigération, explique-t-il. L'idée a évolué, les deux ingénieurs se sont associés et leur entreprise, Glacis Technologies, a été constituée en société en mars dernier. Leur produit, en fait, c'est qu'ils ont développé le Snow Stash, la cachette à neige. C'est une membrane isolante capable de préserver la neige jusqu'à un an. Pour les centres de ski qui s'inquiètent de l'impact des bouleversements climatiques sur leur industrie, l'intérêt est évident. Notre membrane, explique M. Bergeron, leur donne la possibilité de commencer leur saison à date fixe et de garantir à leurs clients qu'il y aura de la neige. La saison de ski pourra ainsi être prolongée avec la neige tombée ou fabriquée en janvier et février et conservée par la membrane pour être utilisée dans les jours plus chauds. Des économies d'énergie importantes sont à la clé pour les stations de ski aux prises avec les aléas de la météo. C'est Hélène Barry qui nous rapportait dans la presse plus du 8 novembre. Moi, je trouve que c'est une belle innovation.
Et que penser des cabanes à sucre maintenant? Ils vont toujours avoir leur belle neige prête.
Ouais, mais là, il y a quand même un petit problème parce que d'autres, ils veulent la conserver alors que la cabane, eux autres, ils la font fondre un peu, là, hein? Quand ils font la tire et tout ça, là.
Oui, tout à fait. Cependant, fort amusant. Mais on va continuer de s'amuser, on va continuer de nous entretenir de sujets aussi rigolos. Restez avec nous pour la suite de l'émission Les Voix de service, tout de suite après cette pause.
Nous revoilà après cette courte pause et Hélène Bédard au micro. Alors moi, je vais vous entretenir à ce moment-ci. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à parler de la mort? Et c'est pas parce qu'on est au mois de novembre, c'est que vraiment cet article m'interpelle particulièrement. Je l'ai trouvé dans l'édition édition du soir, Ouest France, et c'est un texte par Floriane Lemélinaire. La mort fait partie de la vie, mais ça, on n'en parle pas. Ou rarement et difficilement. Patrick Bensoussan, psychiatre, explique pourquoi nous sommes tellement dans le déni face à notre propre mortalité. Pour faire de grandes choses, il faut faire comme si on ne devait jamais mourir. Un des fondements de l'humanité, c'est le déni de la mort. Pas tant le déni de la mort en tant qu'événement réel, mais plutôt le refus de la finitude de mettre un point final à la phrase. Donc on se projette dans la vie comme si on n'allait jamais mourir. Oui, on est dans l'engagement, l'anticipation. Prenez l'exemple de notre relation aux enfants. On imagine toujours un avenir pour eux. On construit toujours leur vie d'adulte en devenir. C'est propre à l'une des fondations de l'humanité qui est toujours de se projeter, aller de l'avant. On voit bien que cette construction ne peut se faire que si l'on n'est pas limité par la crainte qu'il puisse arriver quelque chose, n'importe quoi, n'importe quand, que l'on puisse disparaître, avoir une crise cardiaque. On sait très bien qu'on va mourir. Mais une fois l'information intégrée, on la met complètement de côté. On pense alors à bien d'autres choses qu'à cela. Et on organise son quotidien comme si on n'allait jamais mourir. Freud disait, « L'inconscient ne connaît pas la mort. Dans nos constructions, c'est quelque chose qui est impossible à penser. Des tas de gens ont vécu des vies absolument merveilleuses, riches, enthousiasmantes, et en même temps, ils ont procédé sur le même mode en faisant comme s'ils n'allaient pas mourir ou jamais mourir, comme si la question de la mort ne traversait pas du tout leur existence. Quand on sait que la mort approche, on se sent plus vivant que jamais. Est-il vrai? C'est ce qu'on appelle l'élation terminale. Quand on approche de la fin de l'existence, l'instinct de vie peut être comme surmultiplié. On remarque un rebond, un moment éclatant, une espèce de virtuosité sensorielle, affective, relationnelle. Et puis après ça, ça retombe et c'est fini. Souvent, les proches d'une personne en fin de vie sont étonnés une fois les personnes décédées et disent « C'est incroyable, il y a quelques jours, il était en pleine forme. Il avait retrouvé l'envie de se nourrir, de faire des projets. » Cela ne veut pas dire que la personne sent qu'elle arrive à sa dernière heure et qu'elle se dit « Profitons-en un dernier moment. » C'est quelque chose qui est peut-être plus en lien avec les forces vitales de l'individu. Ses dernières forces de résilience avec sa capacité de survivance ou peut-être même une force de déni qui est encore plus active quand on approche de la fin. Je vais poursuivre un peu plus tard avec une autre partie de ce texte qui nous parle de comment réagissent justement ces personnes en fin de vie. Je vous reviens un peu plus tard pour la suite de cet article qui demande forcément une pause. Et voilà, je vous laisse cette pause et je laisse Francine Forget poursuivre pour le moment.
Oui, et c'est effectivement une poursuite puisque je continue de vous parler d'argent. Alors, le comptant par rapport à la carte de crédit, hein? Vous privilégiez lequel, Hélène?
La carte de crédit, parce que c'est plus facile de gérer, de faire la gestion des finances de cette façon-là.
Bon, alors c'est votre opinion, je la partage, mais tantôt vous allez voir que Stéphanie Grandmont, qui est quand même une chroniqueuse très bien documentée,
tout à fait.
Vous allez voir qu'elle a un point de vue différent. Mais d'abord, je vais vous parler de deux points de vue justement. Celui de Vicky Payeur, dans un premier temps, qui n'avait que 21 ans quand elle se retrouvait dans une situation financière délicate. Elle avait accumulé 18 000 $ de dettes en recourant trop généreusement à sa marge de crédit. Mm-hmm. 4 ans plus tard, elle est une adepte du minimalisme, à ne pas confondre avec la simplicité volontaire, et n'utilise que de l'argent comptant que pour ses dépenses au quotidien. Ses dettes, elle les a remboursées. Son système est simple. Elle retire quelques centaines de dollars chaque semaine, qu'elle répartit avec de petits cartons dans son portefeuille. Elle a établi ses postes budgétaires, épicerie, restaurant, essence, esthéticienne et son chat Elliot, et ne déroge presque jamais au montant prévu. « J'ai quand même des cartes de crédit, » dit-elle, « et les grosses dépenses comme le loyer, hydro, le cellulaire, bref, les factures, ne sont pas payées comptant. » Elle décrit sa méthode, ses coups de cœur et ses découvertes sur son blog intitulé « Vivre avec moins ». Elle compte en outre près de 23 000 abonnés sur YouTube. Pendant plusieurs années, j'ai surconsommé dans tout, peut-on notamment lire sur son blog. Vêtements, chaussures, produits d'hygiène personnelle, restauration, nourriture, boissons et encore plus. C'est un environnement stressant qui n'a rien de bon pour l'humain, à part nous rendre plus lâches. L'avantage de sa méthode, c'est qu'elle sait maintenant combien elle dépense tous les jours. C'est plus visuel. Quand j'ai mis 60 $ dans mon enveloppe pour l'épicerie, je m'arrête là. A contrario, elle attribue son endettement passé à une surconsommation causée en bonne partie par la facilité de dépenser l'argent qu'on ne voit jamais. Avec les cartes, on perd le contrôle. Ça devient tellement facile de dépenser, dit-elle. Un autre point de vue, celui de Anas Toum Benchikroun, qui lui dit « on ne peut pas revenir en arrière ». J'ai presque jamais de cash ou de liquide et j'ai pas toujours mon portefeuille sur moi. Alors, ce Lavallois de 43 ans, il travaille dans le milieu de la finance. Il monte le fond de ses poches, vide. Il trouve très pratique et sûr de tout payer de façon électronique. Son outil préféré, Google Pay, installé sur son téléphone, qui lui permet de passer à la caisse dans pratiquement tous les commerces au quotidien. McDonald's, Métro, Jean Coutu, énumère-t-il en affichant son téléphone. C'est facile, dit-il, tellement pratique de ne pas se balader avec 1000 $ en poche. Entre les cartes de crédit et son téléphone, tout ou presque est réglé sans qu'un billet de banque soit nécessaire. Les seuls commerçants avec lesquels il fait régulièrement affaire et qui n'acceptent que l'argent comptant, c'est son coiffeur et son nettoyeur. C'est à cause d'eux qu'il doit aller faire un tour au guichet automatique, pauvre de lui, une dizaine de fois par année. Quand elle a su que je rencontrais des journalistes, ma femme m'a dit « Dis-leur qu'il faut avoir de l'argent comptant pour les nécessiteux. » Mais j'habite à Laval et je travaille dans l'arrondissement de Saint-Laurent. J'avoue que je n'en croise pas souvent.
Bon, effectivement.
Oui, c'est ça. Mais je trouve que son intervention à la dame, elle est assez justifiée. Arrivé au Québec en 2009, M. Toum Benchekroun a plongé avec enthousiasme dans le paiement électronique, bien plus répandu ici qu'au Maroc et en France où il a vécu. Il convient cependant qu'il a été porté à être plus dépensier, surtout au début. Il conclut en disant « Il faut une bonne éducation budgétaire pour ne pas tomber dans le piège », estime ce professionnel en finance. Laisser les gens apprendre de leurs erreurs, c'est pas bien, il faut les informer. Même s'il convient que l'argent dématérialisé l'a encouragé à dépenser plus, il ne croit pas que la solution consiste à revenir à l'argent comptant. Classer ses dépenses dans des enveloppes, il me semble que c'est ce qu'on faisait dans les années 60 au Maroc. C'est pas comme ça qu'on va avoir une société moderne. On ne peut pas retourner en arrière. Alors voilà un point de vue qui rejoint un peu le nôtre, si je comprends bien.
Oui, tout à fait.
Oui, c'est ça. Alors, c'est dans ce dossier donc de la presse du 11 novembre. Et comme je vous le disais tantôt, je vais finir avec le point de vue de Stéphanie Grandmont.
Mais je viens d'entendre ça. Merci, merci, François.
Quand on n'avait pas le temps, 50 semaines par année à se faire charrier, à se brûler le pelage, à coups de soleil sa plage, une ceinture de lutte, de la honte, on est en pleine chute. Et puis on monte comme un saumon dans le courant, jusqu'à ce que le plus fort t'attrape, il sourit en mangeant, il s'en fait, puis ça. Et on n'est pas à plaindre, mais des fois on s'ennuie du patate steak.
La formation Canaille nous chantait Margarita.
Et voilà, nous sommes de retour et ma collègue est en train de me convaincre là, avec l'utilisation de mon cellulaire unique comme source pour mes activités là, d'achat et tout ça. Elle est en train de me convaincre. C'est pas bête, là. J'y repense.
Ben là, pensez-y, parce que Noël s'en vient. Ça serait le temps approprié pour l'essayer.
Oui, parce que de toute façon, hier, j'étais au Salon du livre, puis j'ai utilisé, abondamment ma carte de crédit, puis... Finalement, j'avais plusieurs choses, puis je pense puis j'avais toujours mon cellulaire disponible, alors pourquoi pas faire une chose à la... Ouais, ça fait son chemin actuellement. Moi, en attendant que j'utilise mon cellulaire pour toutes ces fonctions, je vais vous parler et continuer le sujet, un sujet qui peut sembler délicat pour certaines personnes, mais que je trouve essentiel. C'est comment réagissent les personnes en fin de vie, et ça n'a absolument pas un aspect pécunier pour le moment, mais plutôt un aspect émotif. La plupart des personnes qui sont confrontées à la fin de vie ne savent pas vraiment qu'elles vont mourir. Elles continuent d'espérer. Le savoir sur sa propre mort, c'est vraiment très, très, très rare chez l'être humain. Cependant, certaines personnes, enfants et adultes, peuvent en avoir une lucidité supérieure à la plupart des gens et se rendre compte que leur fin est proche, soit parce qu'elles voient que leur corps ne répond plus de la même façon, soit parce que leur état de conscience n'est plus pareil. À partir de là, il y a des cas de figure différents. Certaines personnes seront sereines, vont vous bluffer, même vous rassurer, tandis que d'autres seront complètement angoissées et terrorisées dans la détresse la plus totale. Pour les enfants, la mort, ça n'existe pas. On parle d'une personne morte, d'un animal mort, c'est personnifié. Pour les enfants, c'est papa qui est mort, papy qui est mort ou le poisson rouge. Il faut que la mort soit incarnée. La mort comme une question philosophique, ça ne les concerne pas. On dit souvent que les enfants commencent à comprendre la mort vers l'âge de 7 ans. Ayant établi que c'était l'âge où on entrait dans le symbolisme et les connaissances logiques. Mais ensuite, on s'est rendu compte, avec le développement de l'observation, de l'attention portée à l'enfant, en particulier aux tout-petits, que ce n'était pas la réalité. En fait, les enfants saisissent ces questions-là bien avant s'ils font semblant, même s'ils font semblant. On le remarque quand ils perdent un animal de compagnie. Ils comprennent très bien que ce dernier ne va pas revenir. Il ne faut pas attendre d'être confronté à un événement pour parler de la mort aux enfants, car c'est dans ces moments-là qu'on est le moins apte à aborder ces questions. Donc, bien entendu, il faut parler de la mort, la séparation, la perte, tout au long de la vie de l'enfant. Il faut profiter d'éléments de réalité pour le faire. La perte d'une doudou, les feuilles mortes qui tombent en automne. Se préparer à la mort, ce n'est pas s'y confronter, mais c'est se dire qu'elle existe, qu'elle va arriver un jour, qu'elle fait partie de la vie. Aujourd'hui, on remarque qu'énormément de personnes n'ont eu aucune réflexion sur ce qui passait si elles devaient décéder brutalement. Souhaitent-elles un enterrement, une crémation? Quel genre de cérémonie espèrent-elles? Ont-elles réfléchi aux aspects financiers? On se rend compte que c'est un sujet très rarement abordé à l'intérieur des familles et entre les couples. Et un beau jour, pouf, ça nous tombe dessus. Anticiper sa propre mort, c'est aussi penser à la vie des autres, aux vivants qui restent. C'est une façon très altruiste de penser sa propre existence. Je sais que je vais mourir, alors je gère donc un certain nombre de besognes qui, si je ne m'en occupe pas, seront extrêmement pénibles pour ceux qui restent. Je vais terminer cet article maintenant que j'ai pris dans l'édition du soir Ouest France, un texte de Floriane Lemélinaire, mais je vous reviendrai, si ce n'est pas durant cette émission, dans une autre, parce que la suite de cela, c'est qu'il y a l'immortalité, c'est un business fumeux, mais très lucratif. Je vous reviens là-dessus. Et voilà, je redonne la parole à Francine Forget.
Oui, alors la chronique de Stéphanie Gramont, je pense tantôt j'ai mal prononcé son nom. L'argent comptant fait le bonheur. Traitez-moi de vieille croutonne si vous voulez, mais je pense que l'argent comptant aura encore sa place pour longtemps dans le cœur des consommateurs. C'est pas que je sois réfractaire au changement, pas du tout. Je préfère payer mon café à l'aide de mon cellulaire plutôt que de chercher de la monnaie dans le fouillis de mon sac à main. Et j'aime 100 fois mieux faire un virement Interac que d'utiliser un chèque personnel. Mais l'argent sonnant et trébuchant n'est pas prêt de disparaître, même si son utilisation dans la vie de tous les jours ne cesse de fondre. Quelques billets de banque restent utiles quand vient le temps de payer un stationnement ou d'encourager un chanteur dans le métro. Quoique l'Australie teste actuellement une application qui permet d'inscrire son numéro de carte de crédit pour offrir 2 à 5 $ aux amuseurs publics. On n'arrête pas le progrès. Il reste qu'il est plus facile de respecter son budget avec de l'argent comptant. Depuis les années 70, de nombreuses études ont démontré que les consommateurs dépensaient davantage lorsque l'argent est dématérialisé. Ce comportement a été confirmé l'an dernier lorsque Dollarama a commencé à accepter les cartes de crédit. Les clients qui paient avec du plastique dépensent 2 fois plus exact. Que ceux qui paient comptant. Autre avantage, l'argent comptant, c'est un mode de paiement moins onéreux que le plastique. La carte de crédit peut coûter une fortune en intérêt. Je vous rappelle que près de 40 % des détenteurs de cartes de crédit ne remettent pas leur solde à zéro tous les mois, ce qui fait en sorte qu'ils paient de 20 à 30 % d'intérêt sur tous leurs achats. Oui, ça fait mal. En plus, les cartes de crédit coûtent très cher aux commerçants qui doivent verser des frais de 1,5 % en moyenne à Visa et à Mastercard. Les deux géants financent ainsi les programmes de fidélisation qu'ils offrent à leurs clients pour les inciter à tout payer à crédit. Pour absorber ces frais, les détaillants relèvent leur prix de vente. C'est donc dire que les généreuses récompenses des clients plus fortunés sont subventionnées par l'ensemble des clients, y compris les plus pauvres qui n'ont pas les moyens d'obtenir une carte de crédit privilège. Complètement tordu.
C'est une très juste réflexion.
D'une part, l'élimination des billets de banque peut être saluée comme une façon de lutter contre le travail au noir, le crime organisé et le terrorisme. L'Europe a d'ailleurs retiré les coupures de 500 euros, je ne sais pas si vous le saviez, Hélène, en réaction à l'attentat du Bataclan à Paris.
Ah non, j'ignorais.
Non, moi non plus, je ne savais pas. J'ai pris connaissance de ça en lisant cette chronique de Mme Gramont. D'autre part, l'avènement de l'argent électronique permet aux institutions financières de savoir absolument tout sur les consommateurs. Alors voilà la crainte de Maurice mise au grand jour.
Une crainte pas mal réelle.
Oui,
parce que...
c'est ça. Alors, qui sont ensuite la cible de publicité comportementale? Veut-on vraiment vivre dans une société où nos moindres achats seront scrutés à la loupe? Alors Maurice a répondu, il n'y en est pas question en ce qui me concerne. Chose certaine, notre système juridique est très mal adapté au nouveau mode de paiement. L'encadrement ne se fait pas de manière globale et neutre pour les différents outils de paiement, déplore M. Marc Lacourcière, qui est professeur à l'Université Laval. Il y a beaucoup de lacunes et un manque de cohérence. Alors que les chèques sont soumis à une loi en bonne et due forme, d'autres outils sont seulement encadrés par un code volontaire. Si l'industrie ne le respecte pas, personne ne lui tapera sur les doigts. Alors, c'est un peu la jungle. Mm-hmm. L'an dernier, Ottawa a soumis un document de consultation pour encadrer les nouveaux acteurs, comme PayPal, qui échappent pratiquement à toutes les règles et les nouvelles technologies, comme le paiement sans contact, qui flottent dans les limbes juridiques. Tant mieux, ce projet de réforme fort important n'a pas fait grand bruit. Faut dire que la mécanique du système des paiements est un sujet archi-complexe. Mais les consommateurs devront quand même se mettre le nez sous le capot s'ils veulent que l'argent de l'avenir fasse leur bonheur. Alors Stéphanie Gramont, dans la presse plus du 11 novembre 2018.
Excellent, merci beaucoup.
L'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui a dit ça est un sacré menteur. Tout ça sous votre bras et partez sans payer.
Parisienne, l'argent ne fait pas le bonheur.
C'est juste à point, hein, Maurice. Merci beaucoup pour ton choix musical. Voilà, moi, je vais poursuivre avec un court texte d'une femme que j'aime beaucoup. C'est Louise La Traverse. Et ça s'intitule « Si on s'aimait en novembre ». On nous ferme la porte de l'été en pleine face. Et avec les citrouilles, tout est denté. On éteint le soleil. Une heure de moins en lumière. On a saccagé nos jardins, les roses sont coupées au ras du sol et les autres plantes à fleurs, dans le même élan. On récupère toutes les herbes à tisane pour l'hiver, menthe, sauge, mélisse, thym, romarin. Le vert disparaît, surtout ce matin. Et les grilles rentrent en scène, les conifères résistent. On pourrait faire pareil en troublant la fête des morts. Célébrons l'amour donc en toute liberté. Oh, l'instant où l'on s'est vu, le noir de tes yeux couleur du rocher. Nos pays éloignés, aimer comme on sait aimer quand on aime bien, aimer à distance ou juste à côté de soi, la même intensité, aimer ceux qu'on ne connaît pas encore, qui viendront se préparer, s'entraider, partager, plonger dans l'amour, respirer, y retourner, aimer les mal-aimés, aimer ensemble la terre qu'on a maganée, beaucoup trop, aimer sans perdre la tête, on l'a déjà assez perdue, la retrouver pour faire mieux, aimer les yeux ouverts pour tout voir, s'appliquer à aimer comme il faut cette fois, et il n'est pas trop tard. C'était « Si on s'aimait en avant », un très beau texte de bonne humeur de Louise La Traverse. Oh, ça, j'aime l'accordéon, hein? Voilà, Francine Forget, vous poursuivez.
Alors, la messagerie peut servir à s'envoyer de beaux messages d'amour, n'est-ce pas? J'imagine que vous utilisez la messagerie, Hélène.
Beaucoup.
Alors, il semblerait, si on en croit cet article qui est paru dans le journal Métro cette semaine, que la messagerie est de plus en plus populaire. Les statistiques montrent que les médias sociaux, évidemment, figurent parmi les refuges les plus populaires de l'Internet. Les applications de messagerie, elles, gagnent du terrain et se positionnent de plus en plus comme des solutions de rechange. Plusieurs études le démontrent. Un rapport de Business Insider Intelligence a révélé l'an dernier que le nombre d'utilisateurs des 4 applications de messagerie les plus populaires dépassait désormais le nombre d'usagers des 4 médias sociaux les plus utilisés. Et quelle est-elle, cette messagerie la plus populaire?
Attendez un petit peu, c'est Outlook? Non.
WhatsApp, ah! Qui n'est pas la messagerie officielle de Facebook, qui est Messenger, mais qui est détenue par Facebook. Alors donc, Facebook contrôle la messagerie, on peut dire ça comme ça. 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde.
Ah ben là!
Oui. La deuxième, c'est Facebook Messenger. Donc, c'est le système de messagerie du réseau social de Mark Zuckerberg qui arrive au deuxième rang avec 1,3 milliard d'utilisateurs.
Ouf.
Ensuite, on a WeChat, qui est un service de messagerie de boîte vocale qui est créé par une entreprise chinoise, Tencent. Et enfin, Skype. Hein, on utilise souvent Skype et on y pense pas nécessairement dans une approche de messagerie, qui est un logiciel qui permet des communications par clavardage, messagerie, vidéo. Il se classe au 5e rang avec 30 millions d'usagers actifs. Alors, bref, il y a pas mal de monde dans le monde qui utilise les messageries qui deviennent, semble-t-il, de plus en plus populaires.
Alors, nous vous disons à la prochaine. Restez avec nous. Pour vendredi prochain, nous serons là pour vous accueillir. Merci. Bonne semaine.
Bonne semaine, Hélène. Okay.